Bonjour Mika, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce grand journal de midi sur RCFM. Au sommaire de cette édition, on parlera du PTIC, le fameux plan de transformation et d'investissement de la Corse. Une enveloppe de 550 millions d'euros avec une question: où va cet argent et à quoi sert-il? La loi immigration également au programme de ce journal. Les Corses se sont aussi mobilisés sur l'île. Des mobilisations qui pourraient se poursuivre dans le temps face à une extrême droite qui gagne du terrain, ont expliqué les manifestants. Une loi qui a également des conséquences économiques, précise le patronat insulaire qu'on entendra dans notre édition. Nous ferons aussi un état des lieux de la justice en Corse avec Jean-Jacques Fagny, le procureur général de la cour d'appel de Bastia, magistrat des saisies, trafic de drogue, grand banditisme. Il était ce matin l'invité de Didier Arnoux. Votre magazine Mare Ladine nous portera aujourd'hui sur le port Tino Rossi à Ajaccio, à la rencontre de charpentiers spécialisés dans le maritime. Et évidemment du sport avec le McFoot à retrouver immédiatement après cette édition. On n'a pas joué sur les terrains de Ligue 2 ce week-end. On joue demain, Jean-Philippe Thibaudeau. Bonjour à vous, Jean-Philippe.
Bonjour, Christophe.
Quel est le programme alors de ce McFoot?
Alors, vous l'avez dit, McFoot consacré à la 21e journée de Ligue 2 qui aura lieu exceptionnellement demain à partir de 20h45 avec deux rencontres au programme. Le Sporting Club de Bastia qui recevra le Stade Malherbe de Caen et l'ACA qui se déplacera du côté de Dunkerque. Si on devait résumer, le Sporting pour confirmer, l'ACA pour se relancer, ce sera le mot d'ordre de cette 21e journée. Pour en parler, nous aurons la chance de recevoir Christopher Ibaï, la nouvelle recrue de cette équipe de l'ACA.
Et on en parle à 12h30. Merci Jean-Philippe. On débute donc ce journal avec le PTIC, le plan de transformation et d'investissement de la Corse. C'est un petit peu le carnet de chèques de l'État sur l'île. Une enveloppe de 550 millions d'euros lancée en 2018 qui a pris la suite du PEI. Ces fonds permettent de financer jusqu'à 80% les projets structurants. À l'occasion de ses vœux le 10 janvier dernier à Maury de Saint-Quentin, le préfet de Corse a fait les comptes. 4 contrats signés en 2023 pour un montant de 120 millions d'euros dans les déchets ou encore dans l'enseignement avec le centre de Surtri de Monte ou encore le pôle d'enseignement de Prunay-Livio-Mourbe, des projets portés par la collectivité de Corse, Paul Ortoli, qui sont eux plus modestes.
Pas de chantier pharaonique en vue, mais le préfet de Corse a passé en revue la feuille de route territoriale.
4 projets en matière d'eau brute, 23 millions d'euros pris en charge à 70% par le PTIC, et aussi la réfection de l'appontement Saint-Joseph à Ajaccio, 4,5 millions d'euros.
Moins de 28 millions d'euros donc sur une enveloppe annuelle de 120, une liste petit bras sur laquelle le préfet n'insiste pas.
Le PTIC constitue un outil formidable pour bâtir la Corse de demain. L'identification des projets financés au titre du PTIC et les réflexions que vous conduisez donc en lien avec la perspective d'un futur statut d'autonomie pour l'île ne devraient, de mon point de vue, constituer qu'un seul et même sujet.
L'évolution institutionnelle ne doit donc pas empêcher d'envisager des projets à condition que le PTIC ne soit pas du saupoudrage porté par une préfecture reconvertie en super conseil général. La collectivité de Corse avait critiqué le prédécesseur du Palais Lantivy, Pascal Large, qui avait coupé la poire en deux pour subventionner les territoires au détriment de la région. Le calumet de la paix est désormais fumé entre préfecture et collectivité de Corse.
Je veux aussi profiter de ce moment pour me féliciter de la qualité de la relation établie entre l'État et l'ensemble des collectivités de l'île. Du dialogue que nous entretenons au quotidien sur les grands enjeux structurants.
Mais le PTIC sera bientôt de l'histoire ancienne et Gilles Simeoni fait aussi le pari d'un grand plan d'investissement dans le cadre du statut d'autonomie. Reste à y inscrire les grands projets.
Alors justement, écoutons le président du conseil exécutif sur le PTIC. Saupoudrage et problème d'arbitrage, selon lui, Gilles Simeoni se projette déjà sur le futur plan du statut d'autonomie. On l'écoute au micro de Paul Ortoli.
Ça fait longtemps que nous avons développé une critique forte sur la façon dont l'enveloppe PTIC a été fixée et ensuite distribuée. Cette critique, elle a été d'ailleurs largement confirmée par l'analyse de la Cour des comptes qui a été très sévère vis-à-vis de la vision de l'État. Mais j'ai envie de dire, c'est désormais un combat d'arrière-garde. Maintenant, il faut consommer au mieux cette enveloppe du PTIC à travers y compris une concertation permanente entre la collectivité de Corse et les autres collectivités concernées pour essayer de faire sortir les projets et surtout de boucler leur financement. Et le nouveau combat à mener, c'est le futur plan de financement des infrastructures stratégiques de la Corse, un plan dont le principe a été énoncé et validé par le président de la République lors de son discours devant l'Assemblée de Corse, et un plan à propos duquel nous travaillons, y compris dans le cadre de la conférence des présidents, puisque ça doit faire partie de la discussion globale pour l'autonomie, un plan à concevoir et à mettre en œuvre en concertation entre la collectivité de Corse, les autres collectivités, les territoires et l'État.
Mobilisation en Corse hier contre la loi immigration. Au niveau national, entre 75 000 et 150 000 personnes dans la rue, selon la police ou la CGT. À Bastia, les opposants qui s'étaient réunis devant les grilles de la préfecture étaient un peu plus de 250, un peu plus d'une centaine. À Ajaccio, ils se sont dit satisfaits de la mobilisation. Objectif des deux rassemblements, demander le retrait d'une loi jugée haineuse ou encore injuste, selon les participants, mais aussi d'occuper le terrain contre la montée de l'extrême droite. Alexandre Antonini a tendu son micro à la mobilisation ajaxienne.
La première revendication maintenant, ça va être de demander tout simplement le retrait de la loi.
Les tendances extrême droite qui montent de plus en plus en France.
Bah, moi, je suis un peu effrayé des tournures actuelles où on voit la montée de l'extrême droite de plus en plus. Bah, surtout montrer que tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Même s'il n'y en est pas beaucoup, c'est déjà pas mal, je trouve, d'être là, présent. Quoi. Donc juste pour montrer notre désaccord avec ce qui se passe en ce moment.
Bien sûr qu'il faut occuper le terrain, montrer que la Corse, ce n'est pas ce discours de xénophobie et d'égoïsme et de repli sur soi. Et je déplore que, également, la Corse, qui était pour moi une Corse d'hospitalité et d'accueil, s'exprime par des voix aussi discordantes que celles du Palatine et compagnie.
Alors, dans les mobilisations hier, des anonymes, mais aussi des leaders syndicaux, associatifs ou encore culturels. Mais cette loi adoptée au forceps à la fin 2023 interroge aussi le monde économique. Jugée trop restrictive en matière de régularisation, les chefs d'entreprise, ce n'est pas les patrons qui le demandent, mais l'économie qui l'impose pour les chefs d'entreprise, explique Jean-Louis Albertini, le patron du MEDEF Corse.
En Corse, il y a des métiers en tension, notamment les métiers qui nécessitent de la main-d'œuvre, comme la restauration, les services à la personne, le bâtiment. C'est un problème conjoncturel de démographie qui ne fera que s'amplifier ici, comme dans le reste du pays. Et cette loi est, à notre sens, insuffisante sur le sujet et pas forcément à sa hauteur. C'est plus une loi sociétale, mais pas forcément une loi économique. On sait qu'il y a d'énormes tensions sur les recrutements dans la quasi-totalité des secteurs d'activité. Et ce qu'il est certain, c'est que la population qui sera en âge de travailler va considérablement baisser pour atteindre près de 8% en 2050, alors que la population totale va rester stable. S'il n'y a pas d'immigration économique pour compenser alors mécaniquement, l'ensemble du revenu produit par habitant va chuter, ce qui entraînera aussi une forte baisse du pouvoir d'achat et un déséquilibre des systèmes sociaux.
Voilà, c'était Jean-Louis Albertini, le patron du MEDEF en Corse. Il était interrogé par Patrick Vinciguer. À noter que le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur cette loi immigration ce jeudi 25 janvier. Le centre de détention de Casabiande a bloqué ce matin par les personnels FO Justice. Les syndicalistes dénoncent le refus de recrutement d'un personnel détaché depuis 3 ans et demi dans l'établissement pénitentiaire. La direction jugerait que ses compétences ne seraient pas satisfaisantes. FO Justice dit ne pas comprendre cette évaluation qui ne correspond pas à l'expression de son supérieur hiérarchique. Et FO Justice qui dit attendre des explications et l'intégration de ce personnel pénitentiaire. On ouvre une page justice. Un homme de 45 ans interpellé dans le cadre d'un trafic de stupéfiants sur Ajaccio. Revendeur et usager de ce réseau, l'homme a été mis en examen jeudi dernier et écroué avant sa comparution devant le juge des libertés de la détention. L'enquête qui a mené à cette interpellation avait déjà conduit à 6 emprisonnements, 4 contrôles judiciaires et a permis la saisie de 14 000 euros, de 5 armes d'épaule de catégorie A et B, d'une montre Rolex et de 2 véhicules. La justice, on en parle aussi avec notre invité de la rédaction. Ce matin, c'était Jean-Jacques Fanny, le procureur général de la Cour d'appel de Bastia. Comme à chaque mois de janvier, la justice tient son audience de rentrée solennelle. Une rentrée qui est l'occasion d'évoquer l'état de cette dernière sur l'île. On écoute le procureur général Jean-Jacques Fanny. Il répondait ce matin aux questions de Didier Arnaud.
Jean-Jacques Fanny, bonjour.
Bonjour.
Comment va la justice en Corse? Je vous pose la question directement parce qu'un juge d'instruction ajaxien, Éric Métivier, a été dessaisi pour suspicion légitime. Je fais l'histoire. La présidente de la cour d'appel de Bastia, Hélène Davot, a jugé que le magistrat avait démontré, je cite, un parti pris constant à l'encontre d'une partie civile victime d'une violente agression à Porto Vecchio. Un magistrat dessaisi, c'est rare. Ça fait des ordres au palais. Est-ce que c'est un caillou dans votre chaussure?
Absolument pas. Un magistrat dessaisi, c'est rare, mais c'est possible. C'est le code de procédure pénale qui le prévoit. La première présidente a été saisie par les parties civiles d'un problème de manque d'impartialité. C'est prévu par le code de procédure pénale. L'avis du procureur général a été demandé. Je l'ai formulé. Il n'était pas favorable au dessaisissement. Pour autant, bien évidemment, la première présidente est parfaitement libre de l'appréciation qu'elle avait du dossier. Elle a estimé qu'il y avait des éléments qui permettaient de suspecter un manque d'impartialité, ce qui l'a amené effectivement à dessaisir ce juge d'instruction.
Ça veut dire qu'on peut choisir son juge ?
Alors non, on ne peut pas choisir son juge, c'est un raccourci, puisque le juge étant dessaisi, c'est maintenant au président du tribunal judiciaire d'Ajaccio d'en désigner un autre. Ce n'est pas un choix de juge, c'est la possibilité effectivement de faire écarter son juge s'il y a des éléments qui sont des éléments évidents de manque d'impartialité. L'impartialité, c'est quand même la pierre angulaire de la justice et des magistrats.
Ouais, c'est plutôt important. Alors vendredi, lors de l'audience solennelle de rentrée, vous avez fait le tour de l'année pénale écoulée, vous avez martelé que le slogan à drogue à four n'avait plus lieu d'être en Corse, puisque dans le trafic de stupes, on trouve de tout, du Corse, du continental, de l'étranger, et cela à tous les niveaux. Alors, dire cela, c'est quoi ? C'est espérer une prise de conscience collective ? C'est peut-être aussi tempérer l'initiative de ceux qui se voudraient justicier eux-mêmes ?
Oui, c'est une façon de dire la délinquance, ce n'est pas toujours les autres. Il faut savoir aussi se regarder dans une glace et se dire que la délinquance, ça peut être son voisin, son frère, et c'est pas forcément l'étranger, le continental, le maghrébin. Les infractions qui sont commises en matière d'usage et de trafic de stupéfiants, elles concernent toutes les personnes, elles concernent l'ensemble de notre société, et dire à drogue à fort, à stigmatiser l'autre, c'est une façon d'écarter aussi le problème.
Mais ça veut dire que la société corse est malade ou n'est plus lucide ?
Je pense que c'est un positionnement qui est là, c'est un positionnement très courant aujourd'hui, cette façon un petit peu xénophobe de dire c'est l'autre qui est la source de tous nos problèmes, c'est une façon effectivement d'écarter en réalité un problème sans véritablement le traiter.
Sur l'actualité et l'activité criminelle, on va dire qu'on est dans une stabilité, une vingtaine d'homicides et de tentatives l'an dernier, 7 vraisemblablement au titre des règlements de compte dans le milieu du grand banditisme. On entend toujours parler de redistribution des cartes, de territoires, de secteurs d'activité, porosité aussi dans la grande criminalité. Aujourd'hui, les voyous investissent dans le domaine de l'environnement, le béton, le traitement des déchets, paraît-il. Est-ce que vous avez vraiment les moyens de lutter sur ce point ?
Écoutez, en tout cas,
Vous avez les armes ?
On l'espère, on est là pour ça, effectivement. On a mis en place, ici, comme dans l'ensemble des cours d'appel, un pôle régional environnemental. Il commence à être armé. On a un magistrat référent, on a un procureur de la République qui vient d'arriver et qui est très investi dans ce domaine. Le pôle va être renforcé, certainement, par un attaché de justice, les anciens juristes assistants qui vont maintenant être renforcé. La Corse va sur l'ensemble du territoire en recevoir plus d'une dizaine, et rien ne dit aussi à terme que nous ne puissions pas recruter un spécialiste de la question environnementale, c'est-à-dire un assistant spécialisé qui viendrait d'une des administrations référentes en matière de protection de l'environnement. Donc tout ça, bien évidemment, se mettra en place petit à petit, et puis bien sûr, on va être extrêmement attentif à tout ce qui se passe dans tous les domaines, le traitement des déchets, mais pas que, la protection du littoral, l'urbanisme, tout ce qui permet effectivement de contribuer à la protection de la nature. La circulaire de politique pénale territoriale du 13 mars 2023 nous y incite. Elle indique de manière très très claire que la Corse bénéficie de sites tout à fait remarquables et qu'il faut protéger.
Et ça va suffire, ces personnels ? Parce que je me souviens, le pôle économique et financier, il avait été présenté comme l'arme absolue pour lutter contre la délinquance financière, et il y a eu des coups de mou, il y a eu des coups d'air dans ce pôle.
Oui, bien sûr, ça au gré des aléas, notamment de la gestion des ressources humaines, hein, effectivement, les personnes ne sont pas attachées forcément à leur poste, elles peuvent demander leur mutation, ensuite il faut arriver à les faire remplacer. Pour autant, il y a une vraie volonté de participer à cette grande cause qui est la protection de la nature, et puis par ailleurs, on n'est pas seul, là aussi, comme le pôle économique et financier, on est en capacité de travailler avec la GIRS de Marseille, qui a déjà fait des offres de services en matière de lutte contre la criminalité organisée, qui s'implique aussi notamment dans la gestion des déchets. On va travailler, comme on sait le faire, en partenariat avec nos collègues du tribunal judiciaire de Marseille. En plus, on est en pays de connaissance avec Monsieur Nicolas Besson, qui vient d'arriver à la tête du parquet.
Le délit d'association mafieuse, ça peut faire bouger les lignes, selon vous ? Il n'existe pas encore en droit français, ça pourrait être un plus ?
En réalité, je pense pas.
Vous êtes pas chaud.
Je suis pas chaud. Nous avons toutes les armes nécessaires dans le cadre de notre arsenal juridique. Je ne vois pas l'intérêt de rajouter. Je sais bien que en matière de législation, on a l'habitude du millefeuille en France. Il paraît que c'est un des desserts préférés du français. Mais créer une feuille supplémentaire, je sais pas si ce sera plus efficace qu'aujourd'hui.
Merci Jean-Jacques Fagny, procureur général près la cour d'appel de Bastia.
Dans le monde agricole, faut-il s'attendre à des actions des agriculteurs sur l'île ? Pour l'instant, pas d'action de la profession en Corse, mais sur le continent, le monde agricole continue de maintenir la pression sur le gouvernement. Leurs représentants seront reçus en fin de journée à 18h par Gabriel Attal. Et avant d'être entendus par le Premier ministre, le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, prévient : il y aura des mobilisations dans le pays ces prochains jours.
Dès aujourd'hui et toute la semaine, et aussi longtemps qu'il sera nécessaire, un certain nombre d'actions vont être menées. Donc le sujet maintenant, c'est que la colère s'exprime pour que chacun dise bien ce qu'il attend. L'engagement de la FNSEA, c'est des revendications claires pour qu'on puisse avoir des réponses claires. Ça fait déjà quelques semaines, quelques mois qu'on décrit la situation de ce que vit l'agriculture française dans ce qu'elle a de diverses, de pluriel, des territoires. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est le trop-plein avec des mesures françaises, franco-françaises, hein, qui sont attendues, mais aussi des mesures européennes. En fait, ce que veulent les agriculteurs, c'est redonner une forme de dignité à leur métier. C'est parler des questions du revenu, de la compétitivité, parce que par définition, il faut gagner sa vie en agriculture. Et puis enfin, c'est tout le sujet de l'exercice du métier au quotidien. Comment, avec la suradministration, comment, avec les déclinaisons européennes d'un certain nombre de règles, on n'est plus en ligne avec ce qui se passe.
Voilà, et des problématiques qui touchent également notre île. Une autre raison d'être mécontent et en colère, l'augmentation des prix de l'électricité. Sans surprise, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a confirmé hier soir la hausse des tarifs au 1er février. Le gouvernement poursuit donc la levée progressive du bouclier tarifaire. Tous les consommateurs sont concernés, qu'ils soient ou non aux tarifs réglementés d'EDF. Cette hausse sera de moins de 10% pour 97% des clients. Claire Kegalini.
Pour les clients qui ont souscrit un contrat heure pleine, heure creuse, la facture va s'alourdir de 9,8%. Pour ceux qui sont au tarif de base d'EDF, soit plus de 10,5 millions de ménages, comptez 8,6%. Seuls 400 000 particuliers s'acquitteront d'une hausse très légèrement supérieure à 10%. Ils bénéficient déjà, avec l'option effacement jour de pointe, de tarifs préférentiels. Pour les petites entreprises, ce sera un peu moins douloureux, entre 5,2 et 8% de hausse. Au total, depuis deux ans, le prix de l'électricité aura donc flambé en moyenne de 43%. Et ce n'est pas fini, la levée du bouclier tarifaire ne sera complète que l'an prochain. L'État prend encore en compte plus du tiers de la facture des Français grâce à une réduction de la fiscalité. C'est donc la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité qui sera réaugmentée au 1er février. Une opération qui rapportera 6 milliards d'euros aux caisses de Bercy.
Et voilà, il faudra payer plus cher son électricité. On continue avec votre argent. Et si vous utilisiez votre compte formation pour passer votre permis moto ? C'est l'une des nouveautés de 2024. Il est désormais possible d'utiliser l'argent de son CPF pour passer son permis moto, son permis de roue. Une mesure entrée en vigueur au 1er janvier. C'était déjà le cas jusqu'à présent pour les permis B, C et D, voiture, poids lourd et transport en commun. Le permis A peut désormais être financé par l'État à travers le compte personnel de formation au même titre que toute autre formation professionnelle. Pour l'heure, peu de moto-écoles sont inscrites sur le site de moncompteformation.gouv.fr où vous retrouvez les différentes formations. Le dispositif se met en place progressivement. En Corse, les moto-écoles se disent déjà très sollicitées, comme le confirme Thomas Verdogne, le patron d'une moto-école de Bigouille, au micro de Maxime Beckmer.
Alors oui, c'est bien que voilà l'État puisse financer ses permis moto. Donc permis moto, on a le A1 et le A2, le 125 et le gros cube bridé à 47 chevaux. Donc oui, c'est bien pour certaines personnes qui sont éligibles à ça de pouvoir être aidées financièrement.
Vous avez beaucoup de demandes ?
Alors oui, énormément de demandes. Hein. Déjà un petit peu avant la fin de l'année, ça commençait, mais alors là, ça y est, là c'est parti. Quasiment tous les jours, on a 4, 5, 10 personnes qui appellent pour savoir si les comptes CPF s'est mis en place pour attaquer leur formation. Que ce soit homme ou femme, on a énormément de monde qui sont voilà, réceptifs à cette formation-là, qui ont leurs comptes de formation ben, qui sont pleins et qui veulent en profiter. Pour l'instant, pas toutes les auto-écoles qui sont labellisées apparaissent sur le compte pro de formation. Donc, ça prend un petit peu de temps au niveau administrativement, mais ça va arriver. Hein.
Et attention, hein, comme à chaque dispositif, il y a des critères à remplir. Pour utiliser le compte formation, passer le panier moto, il faut justifier d'une raison professionnelle pour pouvoir en bénéficier. On quitte la route pour la mer. C'est évidemment l'heure de retrouver Mar et la Dine, votre magazine consacré à la mer et à la Méditerranée. La Corse est invitée d'honneur d'escale à Sète fin mars. C'est la grande fête des traditions maritimes qui se déroule dans le premier port de pêche français de Méditerranée. L'occasion de mettre l'accent sur un métier que l'on ne connaît pas trop, celui de charpentier maritime. En attendant cette grande manifestation, des charpentiers sétois sont présents à Ajaccio. Ils ont restauré des bateaux de pêcheurs. Le reportage de Jérôme Souzigne.
On est sur le port Tinoro, ici à Ajaccio, et on retrouve un charpentier de marine, Raymond Dublanc, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de Sète pour donner un coup de main dans le cadre de l'opération Escale à Sète. La Corse est invitée d'honneur cette année. Vous donnez un coup de main là sur les bateaux du port Tinoro.
Voilà, les petits métiers, les bateaux en bois d'Ajaccio, il n'y a plus de charpentiers pour les entretenir. Donc quand on s'est aperçu de ça, qu'ils disaient qu'ils étaient un peu embêtés, on a dit, nous on va venir, on va vous donner la main pendant une semaine, ce qu'on peut faire, on fait.
Une semaine, c'est peu, finalement.
C'est peu, mais bon, c'est pas mal parce qu'on aura fait pas mal de travail. Je crois qu'ils seront contents.
Charpentier, on utilise encore le bois pour ce type d'embarcation traditionnelle.
Ouais, le bois, et après on travaille de la manière la plus traditionnelle qui soit, hein, hormis qu'on a des rabots électriques maintenant et ce genre d'appareil. Mais autrement, le maillet à calfa, le fer à calfa, c'est comme il y a trois siècles, hein, ça bouge pas, ça change pas.
Entre Sète et Ajaccio, c'est la même histoire de mer, des gens de mer, des bateaux, des...
Ah ben c'est la Marine Ostrom, donc on partage tout. C'est exactement la même histoire, hein. Que ce soit à Sète, à Marseille ou ailleurs, ou ici en Corse, c'est exactement la même histoire. Ça mérite qu'on protège et qu'on sauvegarde quelques bateaux au niveau de la mémoire de la Corse. Là, hein.
Merci, on va vous dire bon travail et rendez-vous à Sète au mois de bientôt.
Mais du 26 mars au 1er avril, et j'espère qu'on vous verra aussi, monsieur.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà, et c'est toujours un plaisir de retrouver ces métiers qui sont peu connus. On va parler de sport maintenant. Hier s'est déroulée la grande messe de la section Corse de l'Union des journalistes sportifs. Il organisait la 9e édition des trophées des sports UJSF Crédit Mutuel visant à récompenser les sportifs qui ont marqué la saison 2023 sur l'île. Et cette année, le grand vainqueur est un jeune cycliste. Il s'agit de Lisandro Bertini, élu donc sportif de l'année 2023, suite notamment à son titre de champion du monde de VTT en enduro chez les moins de 21 ans. Une performance historique pour le cyclisme corse et pour Lisandro Bertini qui a réussi l'exploit de rivaliser avec les plus grands de sa discipline.
Déjà le premier rêve c'était de pouvoir entrer dans une équipe professionnelle, donc ce rêve s'est réalisé déjà 3 ans déjà de ça, et après évidemment le titre de champion du monde, c'est le titre de champion du monde junior, mais c'est quand même un titre, donc évidemment que je suis très fier de ça et j'espère que la suite sera aussi belle. Je pense que c'est beaucoup d'investissement de la part de l'entourage. Moi personnellement c'est mes parents qui m'ont vraiment poussé. Après moi je suis un sport individuel qui n'est pas médiatisé, qui n'est pas trop connu. Donc c'est sûr que les instances n'aident pas trop. Après, je pense que tout sport a le mérite d'exister. Donc la preuve en est qu'il y a des titres mondiaux, même dans les sports les moins connus. Donc je pense que c'est compliqué et c'est beaucoup de sacrifices de la part du sportif, mais aussi de la part de son entourage. Mais c'est possible.
Et d'autres sportifs récompensés à ses côtés, comme le jeune Kamel El Azouzi, a lui reçu le trophée espoir suite à ses nombreuses performances en athlétisme. À noter également les récompenses d'Hugo Boisjol, espoir du MMA, Francesca Maria Franceschi, championne de taekwondo, ou encore du nageur aux multiples titres et médailles, Abeb Wada. C'est la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir suivi cette grande édition du midi sur RCFM. Des sujets qui sont à retrouver sur nos réseaux sociaux et sur notre application. Vous pouvez également réécouter nos émissions en podcast. Avant de vous retrouver cet après-midi pour le reste de l'actualité, je vous laisse en compagnie d'ici quelques minutes de Jean-Philippe Thibaudeau pour son MacFoot. Il nous en a donné le sommaire tout à l'heure. Bonne journée à tutti, non talonda, di RCFM.